Eva, enfin, qu'on vient d'entendre.
Eh bien, écoutez, bah, déjà merci pour cette émission. Et puis, bah, mes actus, le 13 juin à Bruxelles, je fais une release party pour mon EP qui est sorti aujourd'hui. Donc, faut pas hésiter à venir. Faut pareil, me suivre sur Insta, Eva pour Muse, pour les actus, etc. Et puis, le 11 juillet aux Ardentes. Et voilà, quoi, il faut streamer Ecclesia.
Yes. Merci beaucoup à vous quatre d'être venus. Merci cool. à vous merci. Qui avez écouté. On se retrouve merci. La semaine prochaine, 19h-21h sur Move pour Tunnel, comme toutes les semaines. Et ce soir, ce n'est pas tout musique après moi. Je vous laisse aux mains de la Fédération Française de la Loose. Gros bisous. Move Radio.
Move, partenaire de Spot 24.
De Spot 24.
L'exposition olympique présentée par Paris Je T'aime Office de Tourisme
et le Musée olympique de Lausanne en Suisse.
Jusqu'au 31 décembre 2024, à deux pas de la Tour Eiffel, Spot 24 met à l'honneur les nouvelles disciplines olympiques. Basket, breaking, BMX,
escalade sportive,
skateboard, surf. Avec Spot 24, découvrez un parcours immersif et une programmation inédite entre sport et cultures urbaines.
Disponible sur spot24.com.
L'exposition Spot 24, un événement à retrouver sur move.fr.
Move. Salut, c'est Lyon. Je vous donne rendez-vous ce soir à 23h dans Scooter Écouteur.
Sur Move, avec moi-même, Rachid, et on l'écoutera aussi dans la foulée de l'émission. Le premier album des Lyon. La musique est une porte dans son intégralité et c'est une sacrée expérience, je vous le promets.
Je voulais pas partir maintenant, donc j'ai pensé à autre chose. Toujours un souvenir de toi.
Move.
Bonsoir à tous et bienvenue dans la semaine de la Loose. Vous êtes en direct sur Move, il est 21h.
Move.
Move. La semaine de la Loose. Présentée par la Fédération Française de la Loose.
C'est Louis de la Fédération Française de la Loose. On est en direct sur Move pour finir votre journée sur une agréable note de défaite. Pour animer cette émission de la Loose, je suis comme tous les soirs accompagné par Antoine.
Salut Louis.
Et ben depuis lundi cette semaine de la Loose, on accueille chaque soir une ou un athlète français pendant une heure pour parler de tout ce qui se passe quand on ne gagne pas. Gestion de l'échec, les plus beaux fails ou encore ces fichues médailles d'or qui ne veulent pas tomber. Vous aurez aussi droit à des récits palpitants sur la défaite à la française et tout ça évidemment en compagnie de notre invité du soir pour qui le fleuret et les médailles couleur argent n'ont plus de secret. Salut, comment ça va Pauline Ranvier?
Salut Louis, salut à tous.
Est-ce que ça te fait plaisir qu'on ait pensé à toi pour cette quatrième émission de la semaine de la Loose?
Mais ouais, je suis hyper contente que vous ayez pensé à moi et que vous ayez bien notifié que c'était pas que avec mon palmarès.
Bah non, bien sûr que non, mais t'as été flattée quand même un petit peu.
Mais hyper flattée.
Ok, bon, bah, ça nous fait plaisir. C'est tout ce qu'on veut entendre. Pour bien lancer cette émission et initier un petit peu nos auditeurs à qui tu es, Pauline, tout simplement, et qu'est-ce que le fleuret, on t'a préparé une petite bio qu'on va faire avec Antoine. Donc, on se la fait en ping-pong. Et à la fin de la bio, c'est toi qui vas nous noter et qui va nous dire si la bio de toi est fidèle ou pas, tout simplement. Ça te va ?
Ok, nickel.
Allez, on commence.
C'est parti. Tu vois le jour à Paris le 14 avril 1994, soit exactement le même jour que Flora Coquerel, Miss France 2014. Vos destins ne seront finalement pas si éloignés vu que vos objectifs toutes deux seront de monter sur des podiums.
Parisienne pur jus, tu te sers de l'escrime pour enfin découvrir l'autre côté du périph. En effet, tes excellents résultats en jeune t'emmènent dans les zones lointaines du RERD Melun. Tu vas encore bouger plus loin puisque tu intégreras le Pôle France à Aix-en-Provence.
L'accumulation de soleil te déboussole un peu trop et au fond, l'air pollué de la capitale te manque. Tu reviens donc chez nous, direction l'INSEP où tu t'entraînes maintenant depuis plus de 10 ans.
À partir de là, tu vas suivre un précepte de vie, l'argent fait le bonheur. Et on ne parle bien sûr pas de ton compte en banque, mais de ton palmarès international. 7 médailles d'argent, dont une à Tokyo, 7 de bronze, 0 d'or.
Mais au niveau national, tout fout le camp le 17 décembre 2023. Après 4 finales perdues, tu devances la crise de la trentaine en devenant championne de France.
Tu détruis donc cette relation de confiance avec la FFL au pire des moments. Cet été, tu rêves de faire retrouver au fleuret féminin le goût de l'or olympique, chose qui n'est pas arrivée depuis 1980. Voilà pour cette bio. Pauline Ranvier, c'était comment? Tu nous donnes quelle note?
Franchement, un petit 8-9 sur 10.
Ah, on a oublié quoi.
Ouais, ouais. Alors, vous avez pas oublié, vous avez dit qu'on avait, j'avais pas du tout d'or quand même. On a gagné par équipe plusieurs fois, dont 3 d'affilée. Et ça, pour la FFL, ça vous fait mal, je pense.
Attends, quelle compète là, parce que
3 Coupes du Monde d'affilée.
Putain, attends, sur Wikipédia. Sur Wikipédia, c'est vrai, la colonne or.
Exactement, parce qu'on note les championnats d'Europe, etc. Aussi, je suis aussi championne de France par équipe. Et vous avez pas dit que j'ai sûrement gagné plusieurs fois les championnats de Ligue quand j'étais poussine.
Alors ceux-là, j'avoue qu'ils sont vraiment impardonnables.
Donc, ouais. Non, les championnats de poussin, ça, on en senior, on a quand même gagné des Coupes du Monde par équipe. Donc voilà, ça c'est. On a quand même l'heure. Mais sinon, putain, le reste, voilà. Nickel.
On a raté le casting de ce soir, désolé.
Bravo. On va la refaire alors.
Non, mais honnêtement, je pense que c'est ça aussi. On va pouvoir en parler, mais c'est pas toujours facile de suivre toutes les compétitions qu'on peut bien avoir sûr sur un calendrier d'escrime. Antoine, je crois que tu avais une question de la plus haute importance pour nos auditeurs et pour Pauline.
Pauline, tous les 4 ans, finalement, c'est la même routine pour nous devant la télé. Hein. On redécouvre l'escrime, on redécouvre ses lumières et ses régies. Est-ce que tu peux nous réexpliquer, c'est quoi l'escrime?
Waouh. Alors, on va essayer de faire bref,
un petit peu, parce que nous, on voit juste des gens qui font ça et qui crient.
Ouais. Alors, l'escrime, déjà, il y a 3 armes. Ouais. Le fleuret, qui est la mienne, l'épée et le sabre. Donc, l'arme en elle-même est différente, ça c'est sûr. La surface valable est différente, c'est-à-dire qu'au fleuret, on va toucher... le tronc.
Toi, donc. Tu tapes des troncs.
Ouais. Exactement, je tape des troncs. Donc concrètement, c'est pas les bras, c'est pas les jambes et c'est pas la tête. Donc on a une cuirasse sans manche. À l'épée, c'est tout le corps, c'est très simple. Et au sabre, c'est au-dessus de la ceinture parce qu'à l'époque, c'était l'arme des cavaliers, fallait pas tuer le cheval.
Ok, simple. Okay, très simple. Okay. Donc l'épée, c'est les bourrins.
C'est les patients. Ils attendent. Parce qu'en fait, à l'épée, t'as pas de convention. Ça veut dire que tu touches, t'as un point. Les deux touches, les deux ont un point.
Ça, c'est assez général,
oui, il n'y a pas tous ces trucs de...
Il n'y a pas de priorité, bah, d'histoire, de gérer son
priorité
à raison.
Droite,
parce que toi, c'est le premier qui touche, c'est, si tu touches en
nous,
premier,
c'est très
toi.
Compliqué. C'est-à-dire qu'on doit avoir la priorité pour toucher, okay. pour avoir le point, ou sinon allumer tout seul, allumer notre lampe tout seul.
Ouais.
D'accord. Et là, c'est l'arbitre qui va décider qui a raison, qui a tort. Donc évidemment, on peut s'embrouiller avec l'arbitre, ça c'est notoire.
Et je parle, juste pour rappeler à nos auditeurs qui ne connaissent pas et qui découvrent un petit peu aussi les sports d'épée, les lampes, c'est quand finalement il y a un contact entre un fleuret et vos combinaisons.
En gros, vous voyez des lampes rouges ouvertes. Ouais. Voilà. Les rouges ouvertes, ça veut dire qu'il y a eu un point ou une touche sur la surface valable. Blanc, il n'y a que ça au fleuret, c'est non valable. Ça veut dire qu'on a touché les bras, le masque, les jambes, enfin ou par terre, en fait, clairement.
Et du coup, le fleuret, c'est le plus compliqué, c'est ça. C'est là où il y a presque de l'arbitrage vidéo après.
Alors, au sabre aussi, il y a l'arbitrage vidéo parce que ça va super vite, mais le fleuret c'est plus compliqué.
La VAR est partout.
Exactement. Pourquoi ? Parce que en fait on va toucher comme à l'épée avec la pointe. Donc il faut être précis.
Le petit bourron est mou là. La mouche,
alors,
c'est ça ?
Mou, je suis pas sûr. C'est un peu dur quand même parce qu'il faut mettre 500 grammes.
Ouais, enfin, moins mou qu'une vraie pointe quoi. C'est pour
ouais,
pas
ça
vous faire
te
mal,
rentre pas
trop
dans
mal,
le
genre.
Exactement.
Ouais,
et au sabre, on va toucher avec le tranchant de la lame. Ça veut dire que t'as juste besoin d'effleurer la surface valable que tu touches.
Okay.
C'est pour ça que ça va très vite et ça part dans tous les sens. Alors qu'au fleuret, ça demande quand même un peu plus de précision.
Ouais, parce qu'il faut vraiment toucher avec, on appelle ça l'esto, c'est ça ? Ou stock ?
La pointe, tu peux dire la pointe.
Il a révisé sur Wikipédia.
Non, mais je me souviens, c'était dans Wii Sport, t'avais coup de stock. Non, mais c'est vrai, moi c'est comme ça que j'ai appris les règles.
Alors, Wii Sport, je sais même pas si les jeunes savent ce que c'est, tu vois. Donc,
merci de le vieillir.
On a moins de 30 ans encore, enfin en ce qui me concerne, donc Wii Sport, ça reste pour les jeunes, désolé. Et Wii Sport Resort, très bien aussi, bref. Pauline, on t'a préparé aussi une petite série de questions pour découvrir un peu plus, maintenant qu'on a un peu les bases des règles, de voilà, il y a 3 armes, l'épée, le sable, le fleuret. On veut découvrir un peu les codes aussi de ton sport, donc on t'a préparé une série de questions FFL, on va dire. Donc voilà, c'est pas nécessairement les plus intelligentes, mais
on c'est pas du très haut niveau.
Tu sais dans quoi tu t'es embarqué de toute façon.
La semaine de la loose.
Alors, t'as fait les Jeux militaires de Wuhan en 2019. Hein. Est-ce que t'as pas vu des gens manger du pangolin là-bas par hasard et t'auras pas peur de leur dire non?
Désolé, on voulait t'a poser celle-là.
C'est évident, vous l'avez trouvé, bravo.
C'est quoi les Jeux militaires en vrai?
Alors, pareil, je vais essayer de la faire courte.
Ouais, désolé, on te pose que des questions reloues qui durent 3 minutes à répondre.
Ouais, c'est possible. Alors, en gros, moi je suis militaire parce que c'est mon employeur. J'ai, grâce à l'armée, je suis. Enfin, il y a des dispositifs interministériels entre donc, le ministère des Armées et des Sports qui aident les sportifs du coup à être quasiment professionnels. Donc, merci à l'armée de champions encore une fois. Et donc, avec ça, en fait, on leur doit des jours dans l'année et on fait aussi des compétitions compétition militaire. Donc, les Jeux mondiaux militaires, les championnats du monde militaire, etc. Et donc, WAN, c'était les Jeux mondiaux militaires.
Donc là, c'est tous les militaires du monde.
Exactement. Et là, c'était tous les sports, parce que c'était des Jeux.
Qui se castagne, mais en sport, du coup.
Oui, on n'avait pas nos FAMAS avec nous, tout ça.
C'est mieux, c'est
on est resté à notre sport. Et donc là, on est allé à WAN, entre militaires, on va dire, escrimeurs, pour faire une compétition. Et au final, c'est quand même assez intéressant, parce qu'il y a pas mal de militaires dans l'escrime à l'international. Okay. Et donc, ça nous permet de faire une compète qui ne compte pas dans le classement international, mais quand même qui est
très bien. La bouffe était bonne, était bien cuite.
Bah oui, du coup, les pangolas étaient super bons.
Trop gringues. Bon, bah, écoute, peut-être qu'il faut leur donner une deuxième chance alors.
Donc voilà, non, bon timing, c'est vrai, WAN en 2019, c'était top. Ouais.
Et on se demandait du coup, à quel âge tu choisis. Est-ce que c'est comme un peu Pikachu? Non, pardon, Salamèche.
Oh là là.
Erreur, Pokémon, erreur, tu dois choisir entre tes trois épées au début. Est-ce que tu prends sable, fleuret ou.
Alors déjà, tu peux pas dire trois épées, ça marche pas, c'est trois armes.
Tes trois armes, pardon. Non mais parce que moi je suis pisse, tu vois. Non, je rigole. Mais en gros, comment tu fais pour choisir au début entre épée, sable, fleuret?
Alors, en fait, le fleuret, c'est un peu l'arme de base et d'apprentissage quand on est jeune. Mais après, il y a des clubs selon les régions de France. C'est un peu comme t'as le rugby à Toulouse, etc.
Ah ouais.
Ouais, il y a un peu ça. Par exemple, dans le sud-ouest, c'est plus le sabre.
Sud, c'est...
Non, okay. Alors, pas que ça, mais c'est vrai que
sabre.
Sud-ouest, c'est pas mal de sabreurs, Tarbes, etc.
Donc la région parisienne, c'est le fleuret?
Non, la région parisienne, comme on est gros, on a beaucoup de clubs. On a beaucoup de clubs.
Gros dans le sens
imposant
en volume,
imposant,
d'accord,
voilà,
gros
exactement.
Tronc. Moi j'étais là, on a des gros troncs, donc on est plus facile à toucher,
d'accord.
Okay. Bon, et sois honnête, classe-nous les trois armes de la plus à la moins cool.
Bah le fleuret, la plus cool, c'est le fleuret.
Ouais,
parce que t'en fais.
Parce que j'en fais,
voilà,
exactement.
On est d'accord.
Franchement, le sabre est vraiment pas loin pour moi.
Ah, déjà, je dois avouer qu'en tant que, on va dire, en tant que comment on dit, escrimix pour nous, parce qu'on est des footiques. Pour moi, j'avoue que le nom de sabre, ça claque quand même.
Et franchement, si je dois être honnête, j'ai envie de te dire que le sabre, c'est plus badass que le fleuret. Et ça me fait mal de dire ça. Mais franchement...
Tu retournes en équipe bientôt, là.
Non, mais en plus, j'en ai fait du sabre. Parce que là, pareil, vous pouvez... Je suis quand même championne du monde militaire de sabre par équipe.
Ah oui, donc en fait, toi, tu changes d'arme comme
ça. Non, mais pour le truc rigolo, c'est juste qu'en fait, on était justement, je suis pas non militaire, il me leur manquait une fille dans l'équipe de sabre. Et en rigolant, j'ai dit, je mets la tenue, j'ai tiré, etc. Et comme l'équipe est super forte, c'est pas moi qui les ai fait gagner, bien sûr.
J'ai tiré.
Et j'ai fait quelques touches, j'ai vraiment bien aimé. Donc, ouais, j'ai quand même, tu vois, j'ai une médaille d'or, pas dans mon sport, c'est énorme quand même.
J'avoue que c'est propre, ça. J'avoue que c'est super propre.
Donc je dirais, et l'épée en dernier, vraiment, pourtant j'adore, enfin désolé les épéistes, mais non, j'aime pas du tout, c'est trop lent, je m'ennuie un peu, vraiment.
Donc t'es pas assez patiente.
Je suis pas assez patiente, exactement.
Donc sabre badass, fleuret stylé, un peu puriste,
et l'épée c'est chiant.
Épée relou.
Et épée moins bien, si je devais choisir.
Des feux rouges, des feux verts et beaucoup de cris. C'est quoi la différence entre l'escrime et la conduite à Paris?
C'est qu'on respecte les règles. Quand même.
Ah, très
il y a des priorités
réponse,
aussi, du coup.
Ouais, il y a des priorités
exactement,
aussi.
Exactement, ouais, c'est quand même qu'on conduit mieux que les Parisiens, et je suis parisienne, donc je sais ce que je dis.
Et il y a que des sens uniques aussi. Et on se demandait aussi, ça sert à quoi de crier en escrime? J'ai l'impression que c'est. On
ça
peut pas
sert
entendre
à te donner le point quand l'arbitre hésite.
Ouais, d'accord. C'est marrant, mais Mathias Dandois, qui est donc rider en BMX, nous disait la même chose. Il fait du flat et donc du coup, lui, il est noté par des juges pour la prestation artistique. Il nous disait la même chose lundi. Il nous disait même si tu fais un run pourri, tu dois crier comme si t'étais genre en mode trop fier de toi parce que ça peut influencer un peu.
Ça marche.
Mes coéquipières, elles me disent toujours que je suis une actrice vraiment que j'abuse parce que des fois, je sais vraiment que j'ai tort, etc. sur une touche, mais je suis tellement convaincue et sûre de moi que
tu te mens même à toi-même, quoi.
C'est beau.
Ça peut m'arriver, ouais.
Et on avait des questions aussi sur les films, Antoine, je crois.
Ouais, classe ces films où les combats d'épée sont les plus réalistes dans les mouvements, au moins réalistes. Donc on a Zorro, Le Seigneur des Anneaux, Star Wars et Pirates des Caraïbes.
Waouh! Alors déjà, moi je vais mettre Zorro au top parce que c'est grâce à lui que j'ai commencé l'escrime.
Ok, donc Zorro hyper réaliste.
Zorro.
C'est bien fait, Antonio Banderas.
Ouais, déjà, tout ça, en fait, hop, c'est validé.
Ok.
J'ai pas vu Le Seigneur des Anneaux.
Ok, donc on skip et en Star Wars.
Je vais en rajouter une. Je n'ai pas vu Star Wars.
Ok, donc on va arrêter les questions.
On va arrêter l'émission, surtout.
Je sais. Non, j'ai vu Game of Thrones.
Est-ce que tu rages du coup devant les films où il y a des combats d'épée qui sont super
bien? Non, je rage pas, parce qu'en fait, ça s'appelle de l'escrime artistique. C'est-à-dire que tous les mouvements sont répétés et travaillés comme un jeu d'acteur. Donc, à aucun moment.
Mais donc, c'est bien fait dans les films, les combats d'épée qu'on voit, ou c'est n'importe quoi?
Aujourd'hui, non, c'est bien fait. C'est pas réaliste. c'est
il y
bien.
En a pas, tu te dirais, mais là, je l'aurais planté 10 fois, quoi.
Non, non, je le dis pas. Mais déjà, ils ont souvent 2 épées, 2 armes, en fait, à droite, à gauche. Déjà, à partir de là, c'est déjà compliqué.
Okay.
Et puis, le côté sabre laser, bah, ça, faudrait demander à mes collègues du sabre laser en France, parce que je suis pas experte.
C'est vrai que c'est un sport, le sabre laser.
Exactement. C'est affilié à notre fédération, donc là-dessus, j'ai pas les compétences.
Et niveau jeux vidéo, t'étais plutôt Fruit Ninja ou Zelda?
Fruit Ninja.
Ah ouais?
Ouais.
Bon, ben voilà, c'est bon, c'est tout ce qu'on voulait savoir.
C'est l'heure de la question con.
Ah, 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 ah.
La question con.
Ok.
Qu'est-ce que c'est que ça? La question con. C'est la question qui est con. Exactement. Pour vous dire, vous qui nous écoutez, tous les jours en story du compte Instagram de la FFL, on vous demande, on vous présente nos invités et on vous demande de nous envoyer vos questions les plus cons. Donc il nous reste encore une émission demain, on compte sur vous, ce sera Jules Bouillet, le plongeur. Et pour toi, Pauline, on a récolté des très 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 belles questions. On écoute ta première question con, Pauline Ranvier.
Bonjour Pauline, Hervé de Erserange. Est-ce que tu te sentirais capable de battre Zoro en combat singulier?
Le Zoro Anthony Hopkins, qui a un peu vieilli et tout, qui a du mal à se déplacer. Ouais, je pense, ouais.
Donc le Zoro Arthrose,
le Zoro dans
ouais,
les pattes,
le Zoro
ouais.
Arthrose, exactement.
Lui, tu le prends en
VR. Le Zoro Banderas, sa forme, je suis pas sûr. Je tenterais bien quand même.
Il a gagné du tronc, hein.
Mais non, je tenterai quand même. Je pense que ouais, je peux l'attendre.
Tu peux le tenter, ouais.
Ouais.
Mais quand tu regardais l'émission, est-ce que c'est vraiment quand même fidèle au mouvement que...
Ah, franchement, non. Du coup, moi, j'ai appris le masque de Zoro quand j'étais toute petite.
Merde.
Et c'est vrai que la leçon d'escrime, etc., c'était bien. C'était pas mal, ouais. Ça rendait bien.
Ok, donc ils ont vraiment bien taffé, du coup, Zoro.
Ouais, non, franchement.
C'est fidèle à ton
pas
sport.
Pas tout, mais quand même, globalement, c'est bien. C'est pas de l'escrime.
Il n'y a pas la priorité dans Zoro.
Non, il n'y a pas les petites lampes, ils n'ont pas branché d'appareil, etc. Mais,
ils ne sont pas modernes.
Voilà, il n'a pas mis sa petite cuirasse de protection.
Et il fait ça.
Déjà, il est en noir alors qu'on est en blanc, déjà, ouais. Tu vois.
Aïe. Mais trop bien, en vrai, que t'es. Est-ce que t'es la seule à Zoro? Est-ce que ça a vraiment lancé des vocations dans l'escrime?
Il y en a quelques-uns quand même. Il y en a quelques-uns, mais pas des masses. Il y en a beaucoup qui ont vu de l'escrime, etc., qui ont commencé comme ça.
Il n'y a pas Game
of
Thrones aussi?
Pas de ma génération, parce que Game of Thrones, c'était il n'y a pas si longtemps que ça quand même. Donc du
ouais,
coup.
C'est qui arrive, ce qui arrive.
Ça a commencé en 2010-12.
Voilà, les petits, j'imagine, plus tard. Ouais.
Ok, merci à Zoro, parce que c'est grâce à toi du coup qu'on a pu Pauline
ça, on n'aurait pas de médaille d'argent.
On va bientôt pouvoir parler du petit moment culture avec Antoine tout de suite, qui va nous raconter une des plus belles histoires de la loose à la française, que tu devrais adorer d'ailleurs, Pauline. Mais avant ça, on s'écoute la petite playlist loose qu'on a préparée pour cette semaine. Et le prochain titre que vous allez entendre, c'est Loser de Beck sur Move. Alors restez avec nous, à tout de suite.
With the plastic eyeballs, spray paint the vegetables, dog food stalls with the beefcake pantyhose. Kill the headlights and put it in neutral. Stock car flaming with a loser in the cruise control. Babies in Reno with the vitamin D. Got a couple of couches, sleep on the love seat. Someone came saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe everything that you breathe. They get a parking violation and a maggot on your sleeve. So shave your face with some mace in the dark. Saving all your food stamps and burning down this trailer park. Yo. Cut it. With a phony gas chamber, cause one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in the bag. With the rerun shows and the cocaine nose jug, the daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate. Trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite. He's choking on the splinters.
So I won't get the door. I'm a loser, baby.
C'était Loser de Beck sur Move.
Move, la semaine de la lose. Présentée par la Fédération française de la lose.
C'est Louis la FFL, vous êtes en direct sur Move pour la semaine de la lose. On est avec Pauline Ranvier, fleurettiste de l'équipe de France, et d'Antoine, aussi très doué avec l'épée. Mais c'est pas le moment de parler de ta digestion, Antoine.
C'est marrant, ça.
Pauline, c'était comment en...
Il est fier, hein, il est fierot. Franchement, ça fait 4 heures qu'il m'en parle.
Je me suis tapé des barres en l'écrivant, c'était trop désolé, j'étais obligé, mec. Pauline...
Allez, reprends. C'est ta merde.
C'est qu'elle le dit.
Pauline, est-ce que t'étais forte en histoire au lycée? On l'a perdu. Je t'avais dit que les bonnes sur les proutes, ça marchait. Du coup, est-ce que t'étais bonne en histoire au lycée?
Vite fait.
Okay, non, vite ça fait. Veut dire non.
Et ben, ça tombe bien. C'est le moment du petit cours d'histoire présenté par notre professeur Antoine.
La semaine de la lose. Lose rétro.
Voilà, bon, bah avant de passer à l'histoire, déjà, on va commencer avec le français. Est-ce que t'étais bonne en français au lycée? Elle finit.
Merci Louis. Ouais, ça va, ça va.
Bah, est-ce que tu sais ce que c'est qu'une antonomase?
Ah non, là, tu m'as...
Pas du tout.
Ah, c'est bon, là, t'as niqué l'ambiance.
Ah, là, bah, de toute façon, comme tous les profs, hein.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai. Tu m'as dit, je suis prof, moi, je suis l'ambiance, hein. Eh bah, ben, une antonomase, en fait, c'est une figure de style quand ton nom devient une expression. T'en connais peut-être quelques-unes?
Alain Philippe,
c'est un peu une antonomase.
Ouais. Est-ce qu'on dit une Ranvier ou pas en extrême?
Ah, j'aimerais bien, ça veut dire que j'aurais une petite touche à mon nom.
Ouais. Bah, par exemple, dans le sport, t'as le Fussbury. Tu sais, ouais, quand tu sautes, ouais, hein, en patine artistique, t'as le Axel ou le Lutz qui sont des antonomases. Moi, en escrime, j'y ai rien trouvé. Hein, non, le fleuret n'a pas été inventé par Audrey. Mais dans le... Vous l'avez.
Belle.
Mais dans le sport français, il y a le plus bel exemple qui vient du cyclisme, évidemment, Poulidor.
Ah.
Hein, connu pour l'éternité, car il n'a jamais gagné le moindre Tour de France, ni même porté la moindre seconde le maillot jaune. Son nom est donc devenu une expression, et c'est lui-même au final qui en parle le mieux.
Dis, mais j'ai bien fait de ne pas gagner de Tour de France, puisque j'aurais gagné 2 Tours de France. On parlerait plus de Poulidor aujourd'hui. Alors celui qui fait deuxième dans une discipline, c'est le Poulidor. C'est le Poulidor de la pétanque, c'est le Poulidor de la boxe, c'est le Poulidor du football, ainsi de suite.
Ou le Poulidor du fleuret,
par exemple.
Hein, Pauline? Bon, Poupou, pardon. Pas Pauline. C'est quand même 8 podiums du Tour de France, le record inégalé. Alors on peut se demander comment il a fait pour jamais le porter, ce foutu maillot. Bah, 2 raisons principales, hein. Son éternel rival Jacques Anquetil et évidemment le meilleur cycliste de l'histoire, Eddy Merckx. Mais aussi un gros zeste de poisse. Ah. Dans le Tour 68, les 2 autres sont absents, donc il est le favori incontesté. La route est pour lui, mais entre un nouvel adversaire. La moto qui annonce les écarts avec l'ardoise. En voulant éviter un spectateur, elle évite pas la roue d'arrière de Poulidor. Abandon, et c'était sa plus grosse chance. Mais son chef-d'œuvre.
Il s'est fait taper par une moto, quoi.
Ouais, la moto, elle a fait un drift. Fin, il est tombé à terre. Il a essayé de redémarrer, mais il a abandonné.
Ah, dur.
C'est chute à l'arrière du peloton.
Ah ouais, dur.
Mais le chef-d'œuvre de Poupou, c'était 4 ans plus tôt, donc en 64. On est au climax de sa rivalité avec Anquetil. Et pour bien comprendre, à l'époque, Poulidor-Anquetil, c'était Ronaldo Messi. 9e étape, arrivé à Monaco dans un stade Louis II plein, ce qui est déjà un exploit.
J'avoue.
Poupou arrive seul en tête, il fait un tour, il célèbre, c'est pour lui l'étape. Petit problème, Poupou c'est un flemmard, il avait pas lu le roadbook. Il fallait faire 2 tours et lui il avait commencé à décélérer, il est déjà en train avec les doigts levés. Qu'il double et gagne à sa place, eh ben Jacques Anquetil. Et cette victoire, elle va donner à Jacques Anquetil 1 minute de bonification. Et à la fin du tour, il faut savoir qu'Anquetil, il va gagner avec 55 secondes. Donc voilà. Et dans ce même tour, son mécanicien va aussi être une aide cruciale pour qu'il puisse pas gagner. Une première fois dans un dépannage, il va juste mal resserrer la roue de Poupou et il va chuter.
À la boulette.
Dans un autre contre-la-montre, Poupou il crève, son mécanicien il sort, il prend un vélo de rechange, sauf qu'il se viande dans le fossé, il se pète la cheville, et comble du comble, bah, Poupou il doit repartir de son vélo, aller prendre le vélo alors qu'il y a son mécanicien qui est en train d'hurler dans son fossé et perdre de précieuses secondes.
Ouais. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites là.
Non, vraiment. Mais je pense qu'en fait le karma a fait que Poupou ne gagnera jamais. Il a jamais réussi à remonter. Et voilà. Après sa retraite, il deviendra quand même ami avec son rival Anquetil, hein. Et ce dernier, sur son lit de mort, il va lui laisser une petite dernière vacherie. Mon cher Raymond, encore une fois, tu finiras deuxième.
La semaine de la loose.
Alors Pauline, on l'a vu avec Poulidor, bon pour lui la deuxième place c'était presque un art de vivre, hein, j'ai envie de dire, surtout quand on entend les façons qu'il arrivait à innover pour décrocher toutes ces deuxièmes places. Bon, tu nous l'as dit, t'as quand même des belles médailles d'or, t'as aussi quand même beaucoup de médailles d'argent. Est-ce que toi ça t'est déjà arrivé d'avoir l'impression d'être une Poulidor ou ça va?
Non, j'y ai jamais vraiment pensé, parce que les médailles on n'en gagne pas souvent, donc quand on en gagne on est bien content. Après c'est vrai que sur une finale, bah, évidemment t'as envie de la gagner, mais voilà, les médailles d'argent que j'ai, notamment celle des Jeux, et ma médaille mondiale, je, pour rien au monde je les échangerais, enfin si compte de l'or évidemment, mais
même contre une médaille d'or.
Mais je veux dire, voilà, le moment était incroyable, et c'est sûr qu'évidemment on est athlète, on cherche toujours la performance, et donc les médailles d'or, mais voilà, en tout cas je me vois pas Poulidor. Et puis comme il dit, en effet on parle encore aujourd'hui de lui, et ce qu'il a fait n'empêche pas que voilà, c'était incroyable quand même.
Ouais. Mais au final, est-ce que quand t'as une médaille d'argent tu finis sur une défaite, alors que quand t'as une médaille de bronze tu finis sur une victoire? Est-ce que c'est, ouais, pas un peu...
En équipe, oui, parce qu'on tire la troisième place. En individuel, non, tu finis dans tous les cas sur une défaite, parce qu'on n'en tire pas la troisième place, sauf aux Jeux Olympiques.
Okay.
Mais sinon, toute l'année, quand on fait troisième, on a perdu en demi-finale et il y a deux troisièmes.
Ah, il y a deux troisièmes, c'est très FFL ça.
Ouais, on est contents tous les deux. On est deux à avoir
celui
une petite
qui
médaille.
Doit vraiment avoir le somme, c'est le quatrième du coup.
Au jeu, ouais, ouais.
c'est
ouais,
dur.
Ouais, ça c'est cool.
Et toi, t'avais une question, je crois, sur les remplaçants. Il y a un truc,
ouais,
un peu.
Ouais, en équipe, moi, il y a un truc. Alors, je sais pas si c'est qu'au JO ou tout le temps, mais par exemple, au JO, effectivement, le quatrième, s'il rentre jamais dans la compétition, il a pas de médaille.
C'est qu'au JO. C'est ça qui est compliqué dans notre discipline et qu'on trouve injuste. Par rapport à d'autres sports, c'est que, bah, en effet, le quatrième, s'il ne rentre pas, il n'a pas le droit de monter sur le podium, il n'a pas de médaille. Alors que la médaille, elle est là, elle est en backstage, tu vois, puisque s'il monte sur le podium, enfin, s'il rentre dans la compète, il a la pote.
Ouais,
juste, on trouve ça horrible. Et aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé les moyens pour faire changer ça, mais ouais, ça, c'est assez dur, et surtout, c'est qu'au JO.
Donc, ça veut dire, par exemple, Adil Rami en 2018 à la Coupe du Monde, lui, il n'aurait pas eu la médaille.
Exactement.
mais du coup, est-ce que ça fait partie de la stratégie, finalement, dans ta compétition, au moment d'arriver à faire rentrer la quatrième pour qu'elle puisse.
Pour qu'ils puissent croquer
en
aussi.
En fait,
quoi.
C'est pas ma stratégie, non, parce que c'est la stratégie des coachs.
Okay.
Bah, évidemment, en fait, le quatrième sert aussi à nous sortir de la merde si on est dans la merde. Enfin. Et évidemment, si on est hyper devant, bah, de dire bah tiens, allez, kiffe avec nous. Mais c'est très compliqué comme décision à prendre, puisque c'est le coach qui doit dire voilà, moi je veux te faire rentrer, pas pour te faire plaisir et avoir une médaille, mais pour qu'on puisse aller chercher le titre olympique. Donc c'est vrai que c'est
un. Ah oui, donc en plus, quand il rentre, c'est vraiment pas juste pour
faire
plaisir.
Non, bah, franchement, si on avait des problèmes de riches, on serait à plus de 25 touches, on dit bah vas-y, rentre, allez, on te donne la médaille, de toute manière, il va rien se passer.
Ça serait
bien.
Ça arrive peut-être.
Ah bah on aimerait bien.
Je connais des Italiennes.
Elles sont crues, ouais.
Parce que ouais, refais-nous vivre un petit peu, là, effectivement, je pense qu'il est peut-être ton meilleur souvenir des JO, cette fameuse demi-finale où vous avez 11 touches d'affilée.
12 de retard, ouais.
12 de retard.
Ouais, ouais.
Il monte sur l'équipe.fr. Et du coup, toi, tu rentres et tu prends l'énergie de tout le monde pour faire...
Alors, c'est un peu vague, mes souvenirs, parce que je pourrais pas... Tellement je regardais pas le score, à part, je sais, les 12 touches, je sais pas exactement ce qui s'est passé au niveau des scores. Je me rappelle qu'on y a toutes cru, de ouf. Et que on les voyait prendre la confiance de plus en plus, ça nous agaçait. Et nous, on était vraiment comme un chien sur son os qui voulait pas lâcher l'os. Tu vois, on était là, mais non, on va pas leur laisser les gagner et vraiment nous ridiculiser. Et donc petit à petit, on les a un petit peu énervés. On a remonté des touches. En effet, moi, j'ai essayé de transmettre toute l'énergie que je pouvais à l'équipe, etc. Et puis ça a pris. On a commencé à avoir une sorte d'émulsion entre nous pour remonter. Et alors mettre le doute, donc à les agacer. Nous, évidemment, ça a renversé la tendance. Et puis voilà, on connaît la fin de l'histoire. Isaura, ma coéquipière, qui met la dernière. Et là, c'est fou, quoi.
Mais j'ai l'impression qu'en... Alors peut-être plus même presque en équipe qu'en individuel. Genre le mental, c'est un truc où tu peux faire liquéfier quelqu'un. Parce que limite, quand t'es en individuel, tu perds pour toi tout seul. Mais en plus, quand tu te fais rattraper en équipe, on va dire, t'as peut-être une pression...
Bah, c'est vrai que les épreuves par équipe en escrime, elles sont ouf, parce qu'en fait, on vit à plusieurs, on est donc 4 dans l'équipe, plus 2 entraîneurs, plus un groupe de temps... Enfin voilà, c'est assez incroyable. Et donc, il y a plein de rebondissements, parce qu'on est en 45 touches, il peut se passer plein de trucs, les meilleurs peuvent prendre des branlées, inversement. Donc, il n'y a vraiment pas de règles. Et c'est ça qui rend le truc beau. Et en effet, tu peux voir le banc, ce qu'on appelle, donc les filles qui sont pas en train de tirer, en train de péter un câble ou s'agacer, parce que ta copine avant, elle a fait... Enfin voilà, on peut voir plein de trucs, et nous, on a vu le truc se passer, en fait, à aller voir s'agacer, les coachs aussi, Et ça nous a
et là, vous
avez
dit, allez, faut, faut ah,
ouais,
rentrer dans la tête,
faut, là. Exactement, avez... là, faut pas lâcher. Et,
vous avez pris le bail, là, et c'est parti.
Et ouais, quoi. Ça s'est bien goupillé, et voilà, l'histoire est belle grâce à ça aussi, quoi.
Mais t'as déjà été dans l'autre sens, toi, finalement, celle...
Celle, en fait, tu commences
à prendre touche sur touche.
Évidemment, alors, heureusement, ça nous est pas arrivé sur les grands championnats, et on n'en a pas un souvenir horrible, mais oui, bien sûr, ça nous est arrivé sur
le pire choc que tu t'es pris en te faisant remonter.
Bon, les gars, franchement, j'ai pas retenu les scores, mais une année, ouais, je me rappelle, c'était contre Hong Kong. En plus, c'était vraiment une équipe qui était pas bonne et je me suis fait remonter, mais de ouf. Et on perd comme ça. En plus, le pire pour l'histoire qui est rigolote maintenant, parce que ça n'a pas eu d'impact, c'est que je touche. Donc finalement, je m'en sors, on finit le match. Et là, l'arbitre dit il revient. Ah, mais non, finalement, t'as pas la touche, carton rouge. Et je dis quoi?
C'est quoi un carton rouge?
Carton rouge, c'est touche pour l'autre. Donc okay. Moi, on m'annule mon point et on lui met une touche. Donc finalement,
ouais, double des sauces, quoi.
Exactement quoi. Et là, je fais oh putain. Et après, la meuf me touche. Et là, j'ai fait oh non. Là, je me suis vraiment dit c'était la lose. Et j'avoue, ça fait vraiment mal parce que, en fait, tu te sens responsable de la défaite de l'équipe, clairement.
Ouais, t'as l'impression de les avoir tous un peu entraînés dans ta chute, quoi.
Exactement. Donc là, c'est ça qui est aussi dur par équipe, c'est quand tu fais un mauvais relais, de pas se dire j'ai fait plomber l'équipe. De la même manière que quand tu fais un super relais, bah, c'est pas grâce à toi que l'équipe a gagné, quoi.
Et ça se passe comment après dans le vestiaire? Est-ce que tu sens que c'est dur à digérer pour les autres ou c'est tout de suite en mode t'inquiète,
non,
c'est l'équipe?
Non, on est toujours en mode t'inquiète, c'est l'équipe. Après, c'est vrai que selon l'importance de l'événement, c'est plus
ouais,
ou moins
si tu
dur
leur fais perdre
en fait,
une médaille
que,
olympique
ouais, voilà,
là,
si toi t'as vraiment fait de la merde et que tu te sens responsable en fait, et on a beau te dire tous les mots du monde, tu vas te dire ouais. Non, c'est ma faute, alors que non, évidemment c'est une équipe, etc., et t'as toujours tes coéquipières qui sont là pour soutenir, et on sait que c'est une équipe, mais tu peux pas t'empêcher de, voilà, c'est comme les tirs au but, si trois fois le gardien il le loupe, bah il va se dire c'est de ma faute, quoi.
Logique.
Voilà.
On en parlait rapidement juste avant que tu arrives. On a vu que tu aimais bien créer. Alors, je switch complètement de sujet, mais on a vu que tu aimais beaucoup faire du contenu.
Ouais.
On a vu que tu avais fait des petites parodies sur ta chaîne YouTube de Bref, notamment. Et on a trouvé ça super drôle. Et en fait, on s'est posé la question, pourquoi est-ce qu'on voit si peu de contenu sur l'escrime?
Alors, je sais pas si c'est sur l'escrime, mais déjà, enfin, nous en tant qu'athlètes, on n'a pas beaucoup de temps pour faire du contenu.
On fait quoi sinon?
On fait un truc.
Quand même, non.
Pourquoi on n'a pas de contenu? Bah parce que tout simplement, faut s'organiser, faut trouver les idées aussi. C'est ça qui est parce que l'escrime c'est bien, mais déjà ça, les gens connaissent pas spécialement, ça passionne pas de ouf. Donc moi j'essaye de trouver justement des idées où les gens se disent ah c'est marrant, que ce soit de l'escrime ou non en fait, et un peu de dédramatiser le côté élitiste de l'escrime. Et là, en faisant le bref, en faisant des trucs où j'ai fait la Fashion Week, etc. J'essaie d'être un peu dans l'autodérision de mon sport pour que du coup ça amène les gens à se renseigner sur l'escrime et à voir que ça peut être marrant et que nous les athlètes, les escrimeurs, on peut aussi être sympa.
Tu penses que l'autodérision c'est un bon vecteur pour intéresser les gens à un sport?
J'ai envie de dire oui parce que moi j'aime ça et que je pense que voilà, dans la vie l'autodérision c'est bien. Et oui, je pense que l'escrime, on est derrière nos masques, donc déjà les gens nous voient pas, savent pas ce qu'on pense, enfin comment on est. Donc oui, s'exprimer et dire voilà ce qu'on ressent, qui on est pour de vrai, je trouve ça cool, ouais, de manière différente. Moi ce sera par la création de contenu, il y en a, c'est par d'autres biais, mais ouais, je pense que c'est bien, ouais.
C'est un peu comme la F1, quand ils ont commencé à montrer les têtes sous les casques, les gens ont commencé à s'attacher.
Ouais, alors Netflix les a bien donné. Exactement, oui, c'est
sûr que ça aide quand t'as Netflix derrière, mais... Ouais, un petit Netflix sur l'escrime, moi je prends. Hein.
Ouais, mais ça peut être drôle, tu vois, genre...
Ah oui, bah oui, c'est vrai que ça peut être drôle, je te confirme.
Et il y a du drama aussi.
Ouais, voilà.
Bah, peut-être que ça sera Netflix alors.
Ouais, si quelqu'un bosse sur Netflix, si vous êtes intéressé.
On lance un appel.
Allez,
là, ce soir sur
Appel à Netflix.
Et on se demandait aussi, Antoine en parlait, c'était les JO, bah, c'est un peu votre, j'ai envie de dire, votre time to shine, quoi. C'est le gros truc. Et moi, j'appelle ça un peu les sports bisextiles, quoi. C'est une fois tous les 4 ans, t'as une grosse exposition et d'un coup, tout le monde est hypé
c'est
par
ça,
les scrims.
Ouais, ouais.
Est-ce qu'il y a une petite part aussi de frustration pour vous, parce que en fait vous vous entraînez comme des oufs tout le temps, chaque année, et il y a un peu que sur les grosses années olympiques comme ça où on a l'impression que tout le monde d'un coup s'intéresse à l'escrime.
Alors on fait pas ça pour la fame, sinon j'aurais pas choisi l'escrime, ça c'est clair.
Ok, bon, ça c'est dit.
mais oui, c'est vrai, frustration, je sais pas si c'est le mot, mais un petit peu se dire ah c'est dommage que... Bah, surtout quand chaque fois que je parle avec des gens de l'escrime, c'est toujours ah moi j'en ai fait quand j'étais petit, ah j'ai mon cousin qui en fait, etc. C'est super, c'est un super beau sport. Mais oui, mais du coup faut s'y intéresser, faut pas comme tu dis le faire tous les 4 ans parce que l'escrime il y en a tout le temps en fait. En plus comme il y a 6 armes, on peut tout le temps en voir. Mais faut un petit peu s'intéresser. Évidemment il y a toujours, enfin on est quand même, je glisse ça entre deux trucs, on est le premier pourvoyeur de médailles aux JO quand même.
Et
français,
sauf à Londres.
sauf à Londres, mais quand même, même avec ça.
Oh, le rabat tout de suite.
Mais même avec Londres, on reste quand même premier, donc c'est quand même fou. Donc voilà, c'est quand même à chaque fois voilà, les escrimeurs, les scrims, etc. Donc autant s'intéresser un peu de voir aussi des championnats du monde, des championnats d'Europe, quelques coups du monde. Il y en a en France aussi. Donc oui, je pense que ce serait bien. Ouais.
Moi, je me souviens à chaque fois qu'on regarde, t'as quand même un côté hyper stressant. Enfin, surtout en
exactement,
équipe. Plus
en fait,
qu'en équipe, mais c'est
ça qui est ouf, c'est que même si tu comprends rien et que tu connais rien, moi j'ai déjà eu plein de personnes qui sont venues me dire waouh, j'ai stressé, j'ai rien compris, mais j'ai crié à chaque fois. Quoi.
C'est exactement. Parce que c'est franchement, c'est mon expérience de l'escrime. Je ne comprends pas. Je vois des gens crier, je me dis les deux sont heureux.
Mais t'as des émotions et c'est pour ça que les gens veulent regarder du sport. C'est pour vivre les émotions. Ouais, l'escrime, ça, vraiment, ça te transmet des émotions.
C'est hyper inattendu. Quoi.
Exactement.
Tu sais jamais ce qui va se passer.
Pour nous, en plus, t'as des vrais chocs. Parce que je veux dire, en fait, tu le vois, tu commences à avoir des escrimeurs qui se disent ah, je suis mauvais, donc j'attaque moins et puis t'attaques moins.
Et puis en plus, les gens crient, donc toi aussi, ça te fait un peu.
Ils sont au bord de la piste, prêts à tomber derrière.
Ouais, puis tu vois, j'ai l'impression que tu vois complètement ce que dit Antoine. Tu vois complètement le mental, le rôle du mental dans ce sport. Tu sens que quand un athlète est crispé et que il y a de la tension, il y a clairement de la tension. Merci pour ces petites réponses.
C'est l'heure de la question con. La question con.
Elle est de retour. Alors vous qui nous écoutez en direct, merci. Vous qui nous écoutez pendant toute cette semaine de la loose, vous le savez, vous pouvez nous envoyer vos questions cons pour nos athlètes qui sont avec nous tous les soirs. Ce soir, c'est toi, Pauline, qui a le droit aux questions cons de notre communauté. Et pour cette deuxième question con, on part dans le 88 au Tilo, je ne sais pas comment on prononce. Et c'est Gaspard qui avait une question con à te poser, Pauline Ranvier.
Ouais, du coup, je voulais savoir si on pouvait faire des brochettes avec un fleuret.
Putain, question con, hein.
On t'a pas menti sur la marchandise.
Pour les barbecues de cet été. Alors, si je devais donner un conseil à Gaspard, je lui dirais de prendre un sabre parce que les brochettes vont mieux rentrer dans le sabre que dans le fleuret. Donc voilà, Gaspard, prends un sabre pour tes brochettes cet été.
D'accord. Bon, voilà, Gaspard, la réponse de l'experte. C'est vrai qu'il y a une différence aussi pour ceux qui nous écoutent en termes de souplesse des armes.
Ouais, et puis en fait.
Le fleuret, c'est ce qu'il y a de plus souple, non ?
Non, c'est pas souplesse, mais déjà, la lame n'est pas faite exactement, mais l'épée, c'est le plus lourd, le fleuret, c'est le middle, et le sabre, c'est le plus léger.
C'est le fleuret, d'accord. Ou passez votre temps à.
Ouais, exactement. C'est vrai.
Alors, je mime, mais à les plier, à les replier, à faire en sorte que ce soit droit.
C'est exactement ça. En plus, on développe des tics de ouf à chaque fois à redresser notre lame, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on touche fort, enfin. La lame se plie un peu dans certains sens. Et puis, on a développé des tocs.
C'est comme le tennisman qui remet son cordage un peu.
Ouais, c'est ou Rafael Nadal qui remet son short, quoi.
C'est un peu ça, mais je pense qu'on peut trouver à chaque fois. Ou tu sais, non, plutôt le tennisman qui fait tourner sa raquette dans sa main, tu vois. C'est ça, en fait, nous, on redresse nos lames non-stop. Donc, mais oui, ça se tord un peu. Et au sable, comme tu touches avec le tranchant, il n'y a pas cet effet de qu'elle soit vraiment tordue.
Ok, bon tu vois, on en apprend
jour,
tous les jours.
Les brochettes avec le sabre.
Voilà. Les brochettes avec le sabre pour vos petits barbecues.
Je veux une photo, Gaspard.
Franchement, challenge accepted si tu nous écoutes, Gaspard. D'ailleurs, mais toi, t'as plein d'armes du coup à la maison.
Non, j'ai que des fleurets en fait.
T'as que des fleurets.
Et pas chez moi, à l'INSEP.
Pour le cambriolage, t'as pas de quoi te défendre.
J'ai des lames chez moi qui traînent.
Ne cambriolez jamais Pauline Ranvier si vous tenez à la vie.
Donc,
c'était
le tuto.
Exactement. Pauline, je t'avais aussi demandé la musique que t'aimais bien te mettre en compète pour te focus, pour te donner de la pêche avant d'aller décrocher une médaille d'argent. Tu te souviens de...
je m'en souviens.
Tu te souviens ce que tu m'as dit ?
Ouais, je t'ai dit Lose Yourself de Eminem.
Parfait. Je vous propose qu'on s'écoute ça en direct sur Move. Restez avec nous pour la fin de cette émission. On a du très très beau qui va arriver. C'est Eminem, Lose Yourself.
Opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out. Time's up, over, plow. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity.
fast. Back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do it. Lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better. The soul's escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over, these hoes is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows he's grown farther from home, he's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. These hoes don't want him no more, he's cold product. They moved on to the next mo who flows, he knows dove and sold nada. So the soap opera is told, it unfolds, I suppose it's old partner. But the beat goes on, da 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 da. Change what you call rage. Tear this motherfucking roof off like two dogs' cage. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage. But I kept rhyming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5. And I can't provide the right type of life for my family. Cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers. And it's no movie, there's no Mekhi Pfeiffer. This is my life and these times are so hard. And it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, see the thought I caught up between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming on her too much for me to wanna stay in one spot. Another damn monotony's gotten me to the point I'm like a snail. I've got to formulate a plot or end up in jail or shot. Success is my only motherfucking option, failure's not. Mama love you but this trailer's got to go. I cannot grow old in Salem's lot. So here I go, it's my shot. Feet fail me not. This may be the only opportunity that I got. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go.
C'était Lose Yourself d'Eminem sur Move.
Move, la semaine de la loose, présentée par la Fédération française de la loose.
Vous êtes en direct sur Move, c'est la FFL. Je suis en compagnie d'Antoine et de Pauline Ranvier, fleurettiste de l'équipe de France, future olympienne qui va évoluer au Grand Palais, on le disait du coup.
Exactement.
Ça va être beau ça. Hein.
Ouais, ça va être fou.
Ça va être très très beau. Je te propose, Pauline et Antoine d'ailleurs, qu'on ouvre la partie qu'on préfère de cette émission. C'est la partie où tu redeviens nul, tu redeviens comme nous, une sportive du dimanche. Parce qu'on va justement parler de tous les sports que tu aimes faire, qui ne sont pas
de l'escrime, du fleuret, ni du sabre.
Donc la question est toute bête, est-ce que tu as des sports que tu pratiques en dehors de ton sport de prédilection, de ton sport professionnel?
Alors oui, parce que à l'échauffement, à l'INSEP, on fait un sport, je ne sais pas si vous connaissez, le spikeball.
On en parlait hier. Incroyable, on en a parlé hier avec, avec Léa Palermo, qui fait du badminton, et c'est trop stylé le spikeball.
Grave.
C'est trop bien, en vrai. Un jour, ça sera au JO, c'est sûr.
Franchement, je change de carrière, je passe au spikeball.
Ah ouais.
Non, franchement, on adore ça, on a vraiment progressé, et ouais, si on pouvait le faire à chaque entraînement, on le ferait, quoi.
Ah ouais, bah en plus, c'est vrai que ça bouge. Pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas ce que c'est le spikeball, on le rappelle, c'est un petit, une sorte
allez
de mini trampoline.
Allez sur Google, allez sur Google.
Ouais, en vrai, allez sur Google, hein, c'est
t'as
bon.
GPT.
Bon, en gros, tu fais rebondir une balle sur un mini trampoline et tu te fais des passes un peu en mode volée, et c'est super gaulerie, tu peux jouer partout dans les parcs, sur la plage, dans un gymnase, c'est trop bien.
Dans une salle d'escrime aussi, du coup.
Dans une salle d'escrime, ouais, c'est vrai. c'est vrai que c'est super pratique. Ça, du coup, tu le fais dans le cadre de ton. Bah, de ton.
De mon entraînement.
Ouais, est-ce que tu fais des sports, mais pour te vider la tête en mode kiff?
Alors, j'aime énormément le sport et pas mal de sports en général. J'évite de trop en faire parce que.
Faut
pas que je me blesse, faut pas que je me surmène.
T'as des sports interdits?
J'ai pas de sport interdit parce que j'ai pas de contrat. J'en ai pas pro. Donc, rien n'est interdit.
Attends, comment ça, on n'est pas pro? Pas de contrat.
Bah, on n'est pas un sport professionnel, l'escrime.
Ah oui, putain, mais attends, explique-nous ça, c'est quand même une dinguerie.
Encore un truc à expliquer vite alors que c'est long.
Bah écoute,
bah, tout simplement, l'escrime n'est pas un sport professionnel comme le foot, le vélo, le tennis ou autre. Donc,
mais en termes administratifs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de statut.
C'est-à-dire que je ne suis pas un employé de ma fédération. Donc ma fédération ne peut pas m'obliger, par exemple, à ne pas faire de ski. Voilà.
T'es avec l'armée, quoi.
Oui, voilà. C'est ça ton employeur. Mais
donc, du coup, est-ce que ça a des D'ailleurs, on le voyait dans une de tes. Dans ta parodie de vidéo brute, où tu dis, ah, les gens pensent qu'on gagne plein d'argent en étant sportif.
Alors, ils gagnent plein de médailles d'argent.
Ouais, ça, c'est vrai. Mais qu'au final, non, en escrime, on n'est pas forcément comme un footballeur.
Ah, bah non, je peux te le dire.
Est-ce qu'il y a une petite part de frustration de se dire, c'est quand même le sport, tu me dis, qui rapporte le plus de médailles à la France et vous n'êtes pas considéré comme pro.
Non, on n'est pas considéré comme pro parce qu'on on est tout simplement en sport amateur, comme beaucoup de sports en
au
France,
JO,
au JO. Donc on n'est pas, payé pour ça et nous, nos revenus, c'est nos performances, nos primes, notre fédération qui nous aide, notre club, notre région, notre département, les sponsors. Enfin voilà, l'armée évidemment. Donc c'est ça qui nous permet de nous rémunérer, mais à aucun moment on est escrimeur professionnel avec un contrat de travail quoi.
Ok, d'accord.
Et c'est pour ça que je peux dire que je suis pas interdit de sport.
D'accord. Oh bah j'en apprends, on est là pour apprendre aussi.
On est là pour apprendre. Mais du coup, est-ce que toi, t'as aussi des idoles fondamentalement, tu vois? En plus, t'es à l'INSEP.
Je n'ai pas répondu à ta question sur les sports.
C'était quoi ta question?
Les
sports que tu fais pour te vider la tête, du coup.
J'ai du tennis, du volley sur la plage.
Tennis,
Je faisais du tennis avant, donc j'en ai fait un petit peu petite. Ça, j'aime bien. Tous les sports de raquettes, paddle et tout. J'aime
badminton,
les
sports où t'as un truc dans la main.
Ouais, exactement.
T'aimes avoir un truc.
Les ballons aussi, j'aime bien les ballons.
Ok, j'aime les ballons.
Je suis très balle.
Non, je suis très balle.
Non, je suis sport drôle, enfin jeu.
Ludique.
Voilà, je déteste courir, nager, pédaler.
D'accord, donc les trucs pure endurance.
Exactement, c'est pas pour moi.
Donc là, je te propose un triathlon.
Sans moi. Voilà, tout ce qui est Ironman.
Par contre, une baballe là, c'est.
Exactement, yes, là, j'y vais.
Un triathlon, mais avec une balle devant. Comme Olivier Tom, là.
Le ballon est mon ami.
Et du coup, t'as des idoles dans les autres sports que les.
Est-ce que t'aimes regarder les sports aussi?
Ouais, j'adore regarder le sport en général, surtout quand c'est important, des finales, des grands événements, ça me plaît. Roland Garros en ce moment, en termes d'idoles, j'ai Djoko, Nadal. En côté français, j'ai quand même.
Elle a pas dit Federer.
J'ai pas dit Federer, non, parce que je voulais pas dire les trois.
Je t'aimais bien, Pauline.
Non, mais Federer,
c'est ton dérapage du soir.
C'est juste un champion hors norme.
Ah, on est là.
Il y a pas de souci.
C'est juste qu'en fait,
mais en fait, le problème avec Federer, je suis désolée pour tous les fans de Federer, c'est que moi, il me transmet pas énormément d'émotions. Et moi, j'aime avoir de l'émotion quand je regarde du sport. Et comme un Nadal ou un Djokovic sont plus sanguins, sont plus Federer, il est tellement tout le temps impeccable, tout le temps parfait.
Il est trop propre.
Exactement, c'est un champion incroyable et franchement
comme Cristiano Ronaldo, il a jamais la mèche qui bouge quoi.
Ouais, non mais voilà, c'est pour ça que j'ai dit Nadal et Djoko, mais
ça,
en français
je réglerai pas ça à l'épée à ta place.
Non, on réglera à la baballe.
Mais j'en ai plein d'autres hors tennisman, que ce soit des inspirations, que ce soit Clarisse, Teddy, dans mon sport aussi, enfin à l'étranger, il y a beaucoup de sportifs, j'ai pas une idole en particulier, mais tous les sportifs multimédaillés qui ont aussi fait face à des grosses défaites qui sont remis en question et qui ont été capables de rebondir.
Ça vous inspire de ouf.
Ouais, ça nous inspire parce que ça nous donne de l'espoir quand on rate.
Et est-ce que tu cries aussi fort devant ta télé que sur
la piste? Ouais. C'est pas le même cri.
C'est pas le même cri. Vas-y, fais quoi.
Je vais péter les oreilles. Non, c'est pas les mêmes cris, mais ça peut se ressembler. Sur le banc, quand j'ai mes coéquipières, c'est les mêmes cris que quand moi je tire, généralement. Mais voilà, c'est à la télé, ça va dépendre en fait de qui joue en fait. Est-ce que ça m'intéresse vraiment?
Mais tu t'es investi quasiment.
Mais face à la télé, je suis plus la française de base qui râle. Mais non, mais c'est pas possible. Tu vois.
Je connais.
Voilà, ah oui, non, mais Starbit là.
Tout ça. Mais sinon, quand je suis plus investi,
ça fait plaisir. Là, tu vois, tout d'un coup, on ressent moins tout le poids de tes médailles. On a l'impression d'être plus comme toi. Ça fait plaisir. Donc, on se demandait aussi si tu avais pu faire un autre sport pro, t'aurais fait quoi?
Bah du tennis, je pense.
Ouais.
Mais trop petite, donc peut-être pas du coup. Il faut quand même.
Ah, il y a des petits. Hein,
ouais, très haut niveau, je sais pas. Ouais,
c'est
pas sûr.
Ça. Ils sont en train de finir, ouais.
Non, franchement, un de ces sports dont je t'ai parlé, c'est vrai que le tennis ça me plaît bien, mais je suis pas sûr que j'aurais eu une grande carrière de par ma taille où il faut faire a priori.
Ah, c'est vrai que ça peut être un petit handicap. Voilà,
et t'aurais réussi tout ce qui est mental, c'est-à-dire. Pas s'énerver.
Bah, je pense que j'aurais été la même athlète dans tous les autres sports que l'athlète que je suis en escrime, parce que si on est si on arrive à se maîtriser en escrime, pour moi on peut se maîtriser dans tous les sports.
T'aurais crié très fort aussi sur un corps de tennis.
Ouais, alors peut-être pas sur chaque point parce que c'est un peu plus long. Mais mais oui, j'aurais eu le même caractère, ça c'est sûr.
Ouais, en escrime c'est un peu comme au tennis, il y en a qui crient plus fort que d'autres.
Il y en a qui crient plus fort que d'autres, il y en a qui cassent des fleurets, il y en a qui tapent des trucs, qui jettent leur masque, il y en a qui sont hyper fédéraires. Voilà, il y a vraiment de tout, bah il faut d'un monde. Voilà,
c'est... Et toi tu te classes où ?
Moi je me classe un petit peu un peu au milieu. Généralement, je m'énerve pas mal à l'entraînement. Je suis quelqu'un qui aime bien taper dans des bouteilles d'eau. Ça me fait du bien.
Ok.
Taper mon fleuret par terre, etc. Hein, mais c'est vrai qu'en compète, je suis quand même assez calme. Globalement, j'essaie de pas trop montrer à mes adversaires ce qui m'énerve.
D'accord. Donc, si vous avez une bouteille d'eau là en régie, faites attention quand elle sort.
C'est bon, c'est qu'une gourde.
Mais voilà, je m'énerve plus facilement à l'entraînement qu'en compète.
Ok, très bien. Et bah, merci pour ces éclairages. On se sent plus proche du monde des sportifs professionnels. Et je pense que, Pauline, tu es prête pour ta pire interview.
Wow. La semaine de la loose.
C'est pas possible ! C'est pas possible !
Alors, le concept est très simple, Pauline. En fait, je vais te poser des questions très rapides. Ça sera toujours ton pire, ta pire. Et toi, il faut que tu répondes le plus rapidement possible, en mode automatique, tu réfléchis pas. Et puis, tu balances tout ce que t'as. Et puis après, Antoine va allumer l'arbitrage vidéo, puis on va débriefer.
On va voir si c'est la priorité.
Ça marche. C'est bon, ça va ?
T'es okay, prête ? Vas-y.
Allez, go ! Ta pire victoire. La moins stylée.
Waouh, c'est hyper chiant ça.
Ok, d'accord. Mais
ma pire victoire, sûrement en circuit national où j'étais nul, mais j'ai quand même gagné.
D'accord, bon, c'est bon, ça valide. Le pire cliché sur le fleuret ou l'escrime.
C'est un sport de bourge.
Ok, ta pire compète. Le plus gros foirage que t'aies pu faire.
Dernière année, champion du monde junior.
Ok, pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que j'étais ultra favorite et j'ai merdé.
Ça passe aussi. La pire erreur de débutant à faire quand on parle d'escrime, pour tout de suite montrer qu'on connaît pas l'escrime.
Ça peut être tu fais du fleuret et de l'épée ou voilà, tu fais les deux. On te demande si tu fais deux armes en même temps, comme si tu faisais du saut hauteur sans longueur quoi.
D'accord. Le pire film avec des épées.
Waouh. Un vieux D'Artagnan sûrement. Ouais, un vieux D'Artagnan.
Ok, et le personnage que t'aimes le moins, le pire personnage dans Zorro.
Il y avait un méchant espagnol, mais je peux pas te dire. Il doit bien s'appeler Pedro, un truc comme ça, je pense.
ta pire blessure la plus loose.
Je me suis fait une entorse au doigt, c'est très con, et ça fait super mal, et j'ai eu une attelle au doigt pendant des mois au-dessus de mon gant, hyper chiant.
Comment tu l'es faite ?
Sur une oppose, donc en fait mon doigt est sorti de ma poignée, il a tourné, et c'est très con, et ça m'a duré 8 mois.
Ah oui, c'est long ça. Et ta pire interview ?
Je vais pas dire en ce moment, j'ai ma pire interview, je pense, c'est juste après ma médaille des Jeux, où on nous félicite et on nous dit alors Paris. On dit waouh, waouh, ce moment-là. Je crois que c'était ça, ouais.
Ok, bah c'est pas mal.
C'est marrant, on parlait des interviews avec Mathias.
Ouais. Alors attends, c'est quoi du coup ? Raconte-nous l'histoire de cette pire interview. Tu viens d'être médaillé
à Tokyo.
Ouais,
on vient d'être médaillé. Alors c'est vrai que, comme tu le disais, on a perdu en finale, mais on est quand même super contente. On est vice-championne olympique et on doit aller du coup en zone presse. Et alors je sais plus quel média, puis de toute manière j'aurais pas dit quand même. nous félicite brièvement et renchérit direct sur et donc Paris 2024 et là on est en août 2021 et là on leur dit attendez mais
il était dans le turfu.
Tranquille,
on est à Tokyo, on n'est pas rentré à Paris encore, on a les vacances, enfin voilà, c'est ça le programme en fait. Donc et là c'est vrai qu'on a halluciné de voir que les journalistes étaient déjà branchés Paris alors que on venait juste d'être médaillé à Tokyo quoi.
Et là, tu t'es dit, ouf, ça va être 3 années,
il y a eu les journalistes. Après, bon, c'est bien parce que ça altère un peu avec les Parisiens qui râlent de Paris 2024. Donc, c'est bien, on a un peu des trucs différents. C'est cool.
Ok, c'était une bonne anecdote. Moi, j'ai kiffé.
On avait parlé de ça, effectivement, avec Mathias. Lui, il aime pas les journalistes qui ont de la compassion après. Quand t'as perdu, genre qu'ils font c'est que du sport.
Ouais, c'est clair. Non, c'est vrai que souvent c'est j'imagine que c'est compliqué d'être journaliste. Hein, je veux pas me défendre, mais c'est vrai que des fois c'est agaçant. Ouais.
Bah écoutez, je vous propose, comme on arrive bientôt à la fin de cette émission, qu'on fasse un petit tour en voyage et bah, je vous emmène avec moi, ça vous dit ?
Allez,
allez, Antoine. Allez.
La semaine de la Louse. Louse sans frontières.
Alors Louis, tu nous emmènes où ce soir ?
Alors ce soir, accrochez-vous bien, je vous emmène au Canada, un pays d'ailleurs où le spikeball est super populaire, Pauline, donc je t'invite à y aller.
Et vous l'aurez deviné, le Canada, ça va ravir nos amateurs de sport américain. Pauline Ranvier, est-ce que tu suis, toi, des sports US ou pas trop ?
Pas trop. Est-ce que ça compte si je te dis que je mate la mi-temps du Super Bowl ?
Oui, bah alors je suis les sports US en mode Yankee, mais ça va, ça va. Ça, allez, on va dire que ça compte. Mais aujourd'hui, les amis, on va parler d'un de mes sports préférés, c'est le hockey sur glace, la NHL plus particulièrement. Je vous ramène en 2020, quand tu rentrais de Wuhan, et juste avant que le Covid ne paralyse le sport mondial, nous sommes à Toronto, un homme est assis en tribune. Et cet homme, il s'appelle Dave Ayers, il a 42 ans, et il est en train de déguster un beau grand Twitch en train de regarder les Toronto Maple Leafs contre les Hurricanes de la Caroline. Sauf que Dave, c'est pas n'importe quel supporter des Maple Leafs de Toronto, il est aussi employé du club, donc il repasse les maillots, il entretient la patinoire, parfois il va même dépanner au but pendant les entraînements, mais surtout, il est gardien d'urgence désigné de la patinoire des Leafs. T'as une idée de ce que ça veut dire, gardien d'urgence désigné ?
Non, là j'avoue, je vois pas.
C'est normal parce qu'on n'a pas ça chez nous. Et bien en fait, le gardien d'urgence en NHL, c'est un type, souvent un employé du club, qui a le droit d'être appelé par une équipe si tous les gardiens de l'équipe sont blessés dans un match. Et ça vaut autant pour l'équipe locale que pour les visiteurs. Donc c'est vraiment en mode, s'il y a une galère de gardiens dans une des deux équipes, tu vas dépanner. Et donc ça arrive très 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 rarement parce que les équipes ont toujours plusieurs gardiens. Mais voilà, ce soir-là, c'était le soir de Dave. Les deux gardiens des Hurricanes, donc l'adversaire de Toronto, vont tour à tour être victimes de commotion pendant le match. Les adversaires des Maple Leafs n'ont donc plus de gardiens. Et qui c'est qu'on appelle ? Notre bon vieux Dave. Alors pour vous donner une idée, Dave, il a 42 ans déjà, et il a jamais joué mieux qu'en 3ème division senior amateur, dans laquelle il a une moyenne de 8 buts encaissés par match. Autrement dit, il est claqué au sol, notre ami Dave. Il est vraiment nul, et là il va devoir défendre les cages contre les meilleurs attaquants du monde, qui en plus sont ceux de son propre club.
Et ça va péter.
Alors Dave, il entre sur la glace parce que bah voilà, il a pas le choix, ça y est, c'est son moment devant 20 000 personnes. Toronto est mené 4-1 par la Caroline, donc ça va, il doit tenir la baraque. Mais Toronto va vouloir remonter au score en marquant donc des buts à Dave. Et bah le premier tir cadré auquel Dave fait face. Un gros but, effectivement. Bah voilà, Dave prend un tir, un but pour le moment. Donc la mise en, on va dire, l'arrivage en NHL est un peu brutal. Il va avoir l'occasion de se rattraper 90 secondes plus tard sur le deuxième tir cadré qu'il va subir. Bah ouais, franchement, un amateur de 42 ans, tu le mets contre les bourrins de la NHL, ça. Bah, ça se passe mal. Donc en deux occasions, Toronto est déjà remonté à 4-3, donc on se dit que ça va quand même être une vraie boucherie. Et heureusement pour Dave, la pause arrive, il ne restera plus que 20 minutes à jouer. Et là, la dernière période du match commence, et les amis, là, ça va être magique en fait. Dave, il va être transcendé, possédé même, comme quand toi tu remontes contre l'Italie, Pauline. Et va arrêter, tenez-vous bien, les 8 tirs des Maple Leafs sur la dernière période. Il fait un 8 sur 8 devant 20 000 personnes à la Scotiabank Arena. Personne n'en croit ses yeux, les commentateurs sont complètement sous le choc, et en plus de ça, la Caroline va en remettre deux et va gagner donc 6-3. Donc là, pour vous contextualiser, Dave, qui est concierge, 42 ans, qui n'avait pas joué au hockey depuis 5 ans et dont le niveau était plus que bancal, il vient de blanchir la meilleure attaque de la ligue, qui est celle de son club, devant 20 000 personnes à domicile qui sont en délire. Il est élu homme du match, et voici l'occasion, l'ovation pardon, que les fans de Toronto, son club qu'il vient de battre, vont lui offrir. Here he is, named one of the stars of the game, and there's another first. Et le mec a fait la tournée de tous les plateaux télé américains, c'est devenu une big resta, sa crosse de gardien, elle est dans le Hall of Fame du hockey. Et pour Toronto, par contre, ça va être une autre histoire, parce que l'équipe va être raillée comme jamais de toutes parts.